Dieu soit béni.
Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Comme j'ai l'habitude de le faire, est-ce que je dois rappeler le charisme de la garde d'honneur? Est-ce qu'il y a des nouveaux visages? Vous voulez que je rappelle? Oui, en quelques mots. Alors, c'est en somme tout simple, on a pourtant l'art de compliquer les affaires. Est-ce qu'on m'entend bien? Non, pas trop. Non, d'accord. Là, comme ça. En somme, c'est tout simple. C'est pas, on ne va pas s'ajouter quelque chose parce qu'on est tous surchargés. C'est le mal de notre temps. Donc, c'est plutôt, on va plutôt voir la chose autrement. C'est, le Seigneur va demander à une sœur qui s'appelle Sainte-Marie du Sacré-Cœur Bernot, visitandine à Bourg-en-Bresse, qui il va lui demander de vivre sa vie que d'amour et de l'offrir au cœur de Jésus. Et il va offrir la possibilité aux laïcs, donc vous, de vivre que d'amour. Donc on va choisir une heure, tous les jours la même, au cours de laquelle on va dire à Jésus que tout ce qu'on va faire, c'est pour consoler son cœur, mais par amour. Donc si je choisis cette heure qui va de 13 à 14, et que dans les 13 et 14 heures que j'ai choisies, je prépare le repas, et bien, et puis qu'on ne peut pas dire que ce soit trop tous les jours de façon répétitive, on sait bien que ça coûte par moment, et bien non, je vais le faire en offrant mon travail par amour pour Jésus et pour le consoler, et ça toute l'heure. Alors à moins d'une grâce particulière, on ne peut pas penser à Jésus de façon continue. Donc au début de l'heure, on fait une prière d'offrande et on sait que tout ce qui va être vécu dans l'heure est offert à Jésus. Donc par contre, on fait des petites œillades, dirait Saint-Louis-Marie de Montfort. On se rappelle la présence de Jésus du début de notre heure tout au long de cette heure pour ne pas partir dans des cogitations qui nous éloigneraient quand même de notre heure de présence. Et donc ça console le cœur de Jésus et surtout on prend conscience que le cœur de Jésus mendie notre amour et notre attention, que tout ce qu'on peut faire de façon ordinaire, on peut lui donner une valeur extraordinaire pour le salut de nos âmes, la nôtre et celle de nos frères. Donc c'est, ça vaut la peine. Et puis on voit bien autour de soi combien de gens souffrent de ne pas avoir le cœur de Jésus dans leur vie. Et puis, j'ajoute moi, parce que vous en avez fait tous l'expérience, c'est une école de sanctification indolore. Je m'explique. C'est que pour changer si on a un tempérament qu'on n'aime pas, parce qu'on est trop ci, on est trop ça, on voit nos défauts, on dit mais comment faire pour qu'on me changer, eh bien il suffit simplement de s'unir à Jésus. Donc pendant son heure de présence, parce que c'est lui qui nous change, hein, c'est pas nous qui nous changeons, et en nous fixant sur Jésus avec notre attention, notre pensée, nos actes d'amour, on va lui permettre de passer en nous ce qu'on appelle la vie divine, et c'est cette vie à travers les sacrements, mais pas uniquement, qui va transformer nos cœurs. Et vous faites tous l'expérience qu'au fil des mois, au fil des ans, on se rend compte que cette fidélité à notre heure de présence change des choses chez nous, change notre regard des fois. On est peut-être plus miséricordieux, on est peut-être plus patient, on prend les choses différemment. Et puis on se dit comme ça, mais comment ça se fait? Eh bien, c'est heure après heure, on a passé du temps et le Seigneur, c'est pas une récompense, mais Dieu est don par excellence. Il n'est que don. Et quand une âme s'ouvre, il s'engouffre, quoi. Donc, et l'heure de présence, c'est ça. C'est une heure où on va ouvrir son cœur par compassion, parce que on est là pour réparer. Et bien, voilà, lui, il n'est qu'amour, donc il rentre. Hein. Et là, c'est clair, hein, que ça nous change. Voilà, moi la première, donc je pense que vous aussi. voilà, alors c'est pas un péché si on oublie, d'accord, hein. Par contre, on se rend compte qu'on peut se frapper la poitrine en se disant c'est quand même pas si simple que ça de penser à vous pendant toute l'heure, quoi. Et puis ça nous ramène à quoi? À notre juste place de créature. Et on se frappe la poitrine, je suis que ça, et j'ai besoin d'aide. Donc il y a les saints anges qui peuvent nous y aider. Et puis comme là, j'ai vraiment une attitude d'humilité. Parce qu'on se croit toujours mieux et meilleur qu'on est. Voilà, donc pour la petite, pour rappeler le principe de la garde d'honneur, mais surtout, c'est pas une heure de prière supplémentaire. Hein. Ne choisissez pas l'heure où je vais tous les jours à la messe. Ce n'est pas ça. J'espère en tout cas pour vous qu'à la messe vous serez en présence de Jésus. Hein. Mais par contre, une heure où il y a les enfants qui disent, moi je prends l'heure la plus difficile à vivre de la journée. Voilà, il y a des mamans qui prennent le retour des enfants de l'école. Voilà, comme ça je l'offrirai et je serai avec Jésus quand j'aurai cette attention d'être avec lui. D'accord ? Donc c'est vraiment, on ne s'ajoute pas quelque chose, on essaie de mieux vivre quelque chose pour Jésus. Bah, ça change une vie, mais ça change surtout la face de la terre. Alors voilà, je me proposais aujourd'hui, après un peu de réflexion dans la prière, si vous vous souvenez, on s'était quitté en lisant la lettre que Mère Marie de Jésus de Louis Martini avait écrite pour son premier jubilé de son ordre, les filles du cœur de Jésus. Je rappelle qui est cette sainte personne, elle est bienheureuse, elle est donc la fondatrice de l'ordre des filles du cœur de Jésus, elle est surtout la première zélatrice de la garde d'honneur. Elle a beaucoup aidé notre sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot à développer, à faire connaître. Et elle aurait voulu être visitandine, mais le Seigneur avait un autre projet sur sa vie, et donc elle a fondé. Et normalement, il était prévu en mars dernier d'accueillir le Père Luc Hévy, qui est entre autres l'aumônier, mais surtout il a été le responsable de la garde d'honneur au niveau national, et il se proposait, c'est un spécialiste de notre sœur, et il se proposait de venir en parler au cours du week-end de la garde d'honneur. Mais le Seigneur est bon, parce que tout est grâce, et bien il viendra, les dates du prochain week-end de la garde d'honneur, le 10 et 11 avril, nous parler de la mère. Alors je donne déjà la date, même si vous la recevrez en fin de l'année, comme d'habitude, par le courrier habituel. Mais parce que des fois, pour organiser votre emploi du temps, c'est peut-être mieux de le savoir. Donc on a obtenu, enfin, il a bien voulu venir sur le week-end de la Divine Miséricorde. Donc on pourra sanctifier ce jour tout particulièrement avec la mère qui avait un grand grand amour du Sacré-Cœur et entre autres des plaies du cœur de Jésus et tout particulièrement la plaie de son côté. Et je le redis, c'est pas une dévotion à part de la dévotion au culte du cœur de Jésus, ça fait partie du culte du cœur de Jésus qu'avoir la dévotion au saint plaies, le sang et l'eau qui en jaillit. Donc alors on s'était donc arrêté là la dernière fois, donc normalement on devrait reprendre comme on faisait d'habitude, là où on en était resté. Mais voilà, dans ma prière, il m'a semblé bon de vous donner quelques clés. Alors je demande pardon avant. je souris, mais je le fais sincèrement. Si je blesse certains et certaines d'entre vous dans ce que je vais pouvoir dire par la suite, je l'ai vraiment prié avant. Hein. Donc, on est là pour s'entreporter, on est surtout là pour avancer son chemin de la sanctification et pas pour se juger mutuellement. Hein. Donc, si je blesse certains ou certaines, c'est pas l'intention en tout cas. Mais peut-être qu'il faudra. Se dire à la fin de l'entretien, la petite causerie qu'on va avoir là, tiens, les propos de la mère m'ont blessée, elle a dit ça, mais pourquoi elle dit ça? Eh bien, allez, descendez avec ça, avec le cœur de Jésus, et allez voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Peut-être que le Jésus veut changer quelque chose, peut-être qu'il veut que vous l'invitiez peut-être davantage et que vous soyez moins sûr de vous-même. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une des dérives d'aujourd'hui, il faut avoir confiance en soi. Non, il ne faut pas avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en Jésus. Quoi. Hein? Donc, le reste se fera. Hein? Si on a confiance en Jésus, on aura confiance en soi. Mais pas l'inverse. Quoi. Donc, peut-être qu'on a peut-être quelque chose à changer. Et les événements ont fait qu'on a vécu tous hein, cette période des mois de mars, avril et mai, avec ce confinement un peu forcé. Alors, j'en profite pour rassurer tout le monde. Il y a certains qui me disent comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a été dur pour vous? Non, nous, on est des, entre guillemets, des spécialistes du confinement. Hein. On a l'habitude d'être confinés. Hein. la vie clôture fait qu'on ne sort que pour voter et aller chez les médecins. Donc, nous, de s'être enfermé volontairement, on connaît. Par contre, vous, on vous a demandé de vous enfermer et en somme, quelque part, ce n'est pas votre vocation. Donc, on peut comprendre, et nous, on l'a vécu, en tout cas, comme nous, avec vous, que ça a pu être douloureux. Nous, ça n'a pas du tout été. En plus, j'avais fait rentrer, quand on a vu que le vent tournait, on avait des stocks à l'intérieur de nourriture, donc on a manqué de rien. Et le sacré cœur, il a veillé sur la communauté d'une façon extraordinaire. On a pu avoir la Sainte Messe tous les jours, l'abbé Chéreau célébrant sa messe à deux pas, juste derrière donc la paroisse Saint-Clément, donc juste la rue à traverser. On a vu ensemble, avec la permission du Père Leret, qui est responsable de la vie consacrée, à la messe qu'il a célèbre tout seul dans sa paroisse, parce que tous les prêtres célèbrent leur messe tous les jours, donc ils étaient tous amenés à la célébrer tout seul. Et donc il m'a dit, écoutez ma mère, je veux bien venir la célébrer, à la place que je le fasse tout seul chez moi, je le ferai chez vous. Avec la grâce de la clôture, fait que, voilà, il y avait les distances, aucun souci. Donc, en écoutant la vie de nos sœurs, on reçoit des nouvelles, je vous en avais parlé, les chroniques, que chaque monastère est amené à les nouvelles qu'on s'échange des monastères de la visitation dans le monde, on se rend compte qu'on a été privilégiés alors qu'elles ont des aumôniers. Il y en a certains qui n'ont pas priorisé, quoi. Voilà. Donc, dans ma prière, je me pensais qu'il était bon qu'on se redonne quelques clés pour analyser ce qu'on a vécu et surtout pour en tirer profit. Parce que, à mon avis, l'épreuve est plutôt devant nous. Donc, on se dirait plutôt, non, attendez, ma mère, ça y est, le confinement, il s'est terminé, voilà, c'est derrière nous. Voilà, il est plutôt devant nous comme, et ça, il faut tenir les deux bouts de la ficelle, comme le culte du Sacré-Cœur. Et ça, je reprends les mots du Père Guibert dans son livre « Rendre amour pour amour ». Le culte du Sacré-Cœur ne serait donc plus derrière nous, mais plus vraisemblablement devant nous. Ceux et celles qui s'abreuvent à cette spiritualité du cœur de Jésus ne sont pas en quête d'une restauration, mais bien d'une résurrection, d'un approfondissement de leur vie intérieure et d'un accroissement du don d'eux-mêmes. C'est ça le culte du Sacré-Cœur. Donc il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et donc l'épreuve, elle n'est pas derrière, comme elle tient au cœur de Jésus. Parce que c'est quoi l'épreuve dans laquelle on avance? C'est le règne du cœur de Jésus et de Marie, c'est-à-dire la civilisation de l'amour qui dépend de chacun de nous, quoi. De la manière dont nous soignons notre relation intime avec ces deux cœurs qui n'en font qu'un. Voilà. Donc, je vais redonner à travers quelques numéros pour vous camper que ce n'est pas une idée de la mère, à travers le catéchisme de l'Église catholique, ce en quoi on croit. Le dimanche, vous priez le credo et vous dites « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Donc, la situation dans laquelle on est là, il a créé le ciel et la terre. Alors, numéro 295, nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu, qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. 296. Dieu crée de rien. Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien, de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement de rien. La foi en la création de rien est attestée dans l'Écriture comme une vérité pleine de promesses et d'espérances. Donc, au deuxième livre de Maccabée, si vous vous rappelez, la mère des sept fils les encourage aux martyrs. Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Voilà. Je continue. Puisque Dieu peut créer à partir de rien, il peut aussi, par l'Esprit Saint, donner la vie de l'âme à des pécheurs, en créant en eux un cœur pur, et la vie du corps aux défunts par la résurrection. Lui qui donne la vie aux morts et qui appelle le néant à l'existence. Et puisque, par sa parole, il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres, il peut aussi donner la lumière de la foi à ceux qui l'ignorent. Et numéro 302, Dieu réalise son dessein, la divine providence. Et ce n'est pas un gros mot, hein, ça existe toujours. La preuve, je tire ça du catéchisme de l'Église catholique. La création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, car toutes choses sont nues et à découvert devant ses yeux, même celle que l'action libre des créatures produira. Super important, c'est tiré du Concile Vatican I. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde. Ce qu'on a vécu, c'est clair, c'était planétaire, c'est du jamais vu, quoi. Et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui fait, tout ce qui lui plaît. Il est dit du Christ, s'il ouvre, nul ne fermera, s'il ferme, nul ouvrira. Voilà. Donc, c'est important de poursuivre la petite causerie et de partir avec ça. Hein. Dieu a tout créé et rien ne lui échappe. Donc, il est certain que le Covid-19 ou le coronavirus, c'est pas lui qui l'a balancé sur la planète. Ça, c'est clair. Parce que c'est un mal en soi et en Dieu, c'est impossible, ça n'existe pas. Sinon, ne serait pas Dieu. Mais à travers le message que je viens de vous donner, des différents numéros du catéchisme de l'Église catholique, le Covid, le coronavirus, ne lui échappe pas, ne lui a jamais échappé et ne lui échappe pas encore aujourd'hui. Ni les conséquences. D'accord, hein? Dieu n'est pas à rebours. Hein? Mince, je l'ai oublié, j'étais occupée avec. Le monastère de la Visitation qui fait que de me solliciter, j'ai oublié, mais on sourit, non, mais je suis pas si sûre qu'on est toujours clair avec ça. Avec le numéro 395 du catéchisme de l'Église catholique, la puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Ah bon? Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours, et heureusement, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et indirectement même de nature physique, pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence, qui avec force et douceur dirige l'histoire de l'homme et du monde. C'est du catéchisme de l'Église catholique, hein, ce n'est pas de moi. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère. Mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Peut-être hein, que là, en entendant ça, vous dites, moi, j'imprime pas, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, quoi. C'est simple, il faut s'humilier intérieurement. Je n'ai pas dit que vous allez comprendre, hein, mais humilions-nous, quoi. Arrêtons d'être dans « je sais ». On ne peut pas tout comprendre, on est des êtres finis, Dieu est infini. On n'arrivera jamais à comprendre ben, Dieu dans ses choix, dans son choix de sa divine providence, quoi. Et aujourd'hui, ce qui nous met par terre, c'est qu'on fonctionne avec des cases. Donc, il y a un événement qui m'arrive, il faut que je le comprenne. Donc, je le mets dans une case. Ah, il ne rentre pas. Bah, attendez, je ne vais pas agrandir la case, je force. Hein. Je fais rentrer dans ma case. Hein. Souvent, nous, on a des cases étroites, hein, faut bien dire les choses. Donc, c'est clair qu'on ne comprend rien du message de Jésus en Dieu, par l'Esprit Saint. Donc, acceptons, c'est pour ça, humilions-nous intérieurement et disons-nous, bah, je ne comprends pas. Hein, c'est clair, moi, quand je reçois quelqu'un qui est attaqué par le démon, c'est clair que moi non plus, je ne comprends pas tout de la divine providence. Quoi. Mais par contre, toutes les personnes que j'ai pu recevoir en parloir ou aider par la prière ou accompagner, elles me disent toutes, c'est très dur, je vis en enfer, en général, c'est toujours ça. Par contre, je n'aurais jamais fait ce chemin-là si je n'avais pas été attaquée de cette manière. Voilà. Je le redis, qu'est-ce qu'on vient... Pourquoi on est chrétien, en fait ? Ben, c'est pour lui ressembler, quoi. On est tous sur le même chemin, sur le chemin de la sanctification. Est-ce que c'est ça notre idéal de vie de chrétien ? Plantons notre tente, mangeons bien, nous mourrons gras, pour faire court. C'est ça notre objectif, non. C'est de lui ressembler et un jour de le voir face à face. Et puis tant qu'à faire, il faudrait mieux pas arriver tout seul. Alors nous devons donc considérer le mal, la question de l'origine du mal, en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. C'est sûr que si on ne regarde pas aujourd'hui mon voisin qui est atteint du coronavirus, parce que je suis désolée, il y a des cas, hein, même si voilà, bon, je ne vais pas nier le fait, hein, peut-être que c'est utilisé, on verra ça tout à l'heure, mais il y a quand même des cas. Si je ne regarde pas justement Jésus en gardant la situation, ben, c'est clair hein, que je fais mes bagages et puis je vais habiter sur une île déserte. Hein. Mince, je vais retrouver quelqu'un, moi-même. Hein. Donc il s'agit plutôt de se quitter soi hein, et de fixer Jésus pour comprendre quelque chose à ce que nous vivons. Donc ce regard hein, fixé sur Jésus nous engage à nous battre, donc à se quitter soi-même. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Je le redis ça, j'y crois beaucoup. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Dans mon tempérament, je pense que c'est un peu, à la longue des années, un peu perçu le personnage que je suis. Je suis plutôt du genre à prendre l'épée, à monter à cheval pour commander. En plus, dans le passé, j'en ai fait, donc je connais, et j'avais ça. Donc voilà, dans un tempérament vif, eh bien, c'est tellement facile hein, de partir en bataille contre ce qui nous paraît aberrant. Eh bien, heure de présence après heure de présence, je suis défendue de mon cheval, j'ai remis l'épée au fourreau. Qu'est-ce que dira Jésus à Saint-Pierre quand au jardin de Gethsémani les soldats viendront me chercher ? Il coupera l'oreille quand même du soldat, Jésus dira « Pierre, remets ton épée au fourreau. » Et Jésus fera quoi ? Il se livrera. Là, là, la guerre spirituelle. Comment ça, ma mère ? Il faut qu'on fasse rien ? Faut qu'on te laisse faire ? Faut qu'on continue de mettre notre masque ? On va voir. Donc, une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Il faut le dire aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de Satan. Ça, moi, je le dis maintenant. Enfin, je veux dire, plus je vais, hein, enfin, on ne l'entend pas beaucoup, mais plus j'entends les gens qui viennent m'écouter, enfin, viennent me voir, enfin, des trucs enfin, de fou quoi, avec Satan, eh bien, c'est l'ère de Satan. Donc, oui, c'est sûr, c'est l'ère de Satan. Donc, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour tuer la mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix. Et on ne combat pas le diable autrement que par l'amour. Avant de reprendre donc la mère de Jésus de Mille Martini, qui dans sa dernière lettre, hein, sa première lettre pardon, pour le premier jubilé de son ordre, invitait hein, ses filles à prendre les armes spirituelles pour se battre contre les œuvres diaboliques mises en place par une société franc-maçonne. On est en 1870 au moment de la salette, hein, son premier jubilé. Bon, quand je vous l'avais déjà lu, on se faisait tous hein, la remarque « Oh, mais là, c'est fou, c'est exactement ce qu'on vit, quoi. » Bon, je risque peut-être gros en disant ça, mais bon, je vais le dire parce que je, voilà, je suis comme ça. Eh bien, bon, on sait tous hein, qu'on est conduit par la franc-maçonnerie, enfin, c'est clair, hein. Après, il y a plusieurs loges, et puis, bon, il s'avère quand même que le gouvernement est quand même pas des petites loges, quoi. Donc, voilà, regardez ce qu'ils ont fait cet été, hein, voilà. Donc, je suis désolée, ça fait partie, reprenons les numéros que je viens de dire, hein, sur le catéchisme de l'Église catholique, hein. Ça fait partie du plan de la divine providence, d'accord. Sinon, le Seigneur aurait envoyé ses armes. C'est ce qu'il va dire à Pilate. Hein? Il aurait envoyé son armée, il en a une, hein? Ses anges. Alors, après, j'y vais que c'est simple, hein? Parce que c'est de séparer les ténèbres de la lumière, c'est clair. On nous a demandé des mesures sanitaires. Hein? Et c'est vrai que je vous ai demandé, moi quand je m'approcherai de la grille, je mettrai mon masque. Hein. Et je vous dis tout simplement, hein, j'étouffe sous ça. J'ai beaucoup de mal à supporter. Hein. Je vous dis, alors j'ai beau le pincer avec les lunettes, je suis sérieusement. Mais, enfin bref. On est toujours exhorté par les plus petits que soi. Donc, il y a une sœur, je sors pour l'accompagner chez un médecin. Et puis. Moi j'étais là, j'essayais de me faire de l'air avec, et puis elle me dit, et j'ai trouvé ça super beau, elle me dit, mais ma mère, vous savez, moi je le porte, mais en esprit de sacrifice. Ben voilà. Un petit truc qui peut vous aider, quoi. Je dis pas que je respire mieux, hein, attention. Et, parce que, je fais une petite parenthèse, mais je rencontre beaucoup avec la direction spirituelle. Quand on dit à Jésus, je te fais confiance Jésus, je pose un acte de confiance, j'ai quelque chose qui me fait souffrir, je te fais confiance Jésus. Ben mince Jésus, t'enlèves pas ce qui me peine. Mais attention, on ne pose pas un acte de confiance pour ne plus sentir la peine. Et quand je fais mon sacrifice avec mon masque, je dis bon Jésus, allez par amour pour une âme, pour le salut monsieur Macron. Il ne faut pas qu'on l'oublie lui, hein, dans la strie. Il y croit, hein, parce que quand on est franc-maçon, on croit à l'existence du diable. Ils y croient peut-être plus que nous. Eh bien, à l'existence de Dieu. Et il passera devant Dieu un jour ou l'autre. Donc, on est responsable de son salut. Donc, maintenant, je me dis, je vais porter mon masque hein, pour le salut de M. Macron, pour qu'il rencontre Jésus. Eh bien, j'étouffe toujours sous le masque. Mais par contre, qu'est-ce qui change? Le sens que j'en donne. Voilà. Un petit truc pour vous aider, quoi. Alors voilà, toutes ces mesures sanitaires, c'est sûr hein, que ça a été plus que difficile à mettre en place. Et aujourd'hui, on dit, voilà. Alors voilà, il y a un peu de tout. On est, et ça, c'est là où je sors de mon monastère, je vais dans parce que je suis portière à certains matins. Et je vais donc à l'accueil et je suis sans masque. Et je rencontre une bonne personne hein, qui entoure la communauté, mais j'en rencontre plein hein, tous les jours. Hein. Donc j'en prends qu'une, hein, d'accord? Comment ça, ma mère? Vous n'avez pas votre masque, mais pourtant vous êtes une religieuse n'obéit pas. Enfin, ouais, j'exagère un peu, hein, mais c'est. On me reprend. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas mon masque. Très bien. Je vais à leur sein parce que sœur Marie-Jean était en retraite, donc j'ai assuré la surveillance parce qu'on est dans un quartier qui est un peu chaud. Donc à une certaine heure, il faut être dehors pour être sûr que personne ne vienne faire un mauvais coup à la chapelle. Donc j'étais au fond de la chapelle et comme c'est demandé au fond de la chapelle de porter son masque, j'avais mon masque. Hein. Donc voilà. En esprit de sacrifice pour Monsieur Macron. Et du coup, je sors, donc j'ai mon masque, mon tuteur de sein, je sors, je fais sortir les gens et une s'arrête et me dit « Comment ma mère, vous savez pas, c'est un geste franc-maçon ?» Première nouvelle, c'est vrai, bon, voilà. Mais en le portant en sacrifice pour Monsieur Macron, du coup, je le transforme. Et ben comment ça se fait? Vous portez le masque, vous savez que ça ne sert à rien, c'est trop tard. Enfin, bon, Alors, c'est un petit exemple. Hein. Je fais la leçon à personne. Hein. Tout le monde part d'un bon sentiment de dire à la sœur ce qu'elle doit faire. Et bien, c'est là, justement, il y a un problème. On est tous dotés d'une conscience. Plus ou moins éclairé, ça je vous l'accorde, hein, ça dépend de l'intimité qu'on a avec Jésus. Ça, entièrement d'accord, mais on est tous en chemin, et là je juge personne. Ça se trouve, moi je suis plus loin de vous, c'est pas parce que j'ai un voile sur la tête. Hélas. Eh bien, comment dirais-je, avec délicatesse, hein, je fais la leçon à personne. Mais aujourd'hui, vous achetez une paire de chaussettes sur Internet, aussitôt on vous envoie un message, critiquez donnez votre avis, critiquez le produit. Tout le monde dit ce qui lui passe par la tête et tout ce qu'il pense bien ou mal que l'autre doit faire. Je pense que s'il y a une leçon à tirer du coronavirus, de la pandémie, du confinement, de la situation dans laquelle aujourd'hui on va vivre, et à mon avis on en a pour un moment d'avoir ça sur le nez, eh bien peut-être que on peut se contenter de s'occuper que de soi. Voilà. Parce que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui a vécu une infestation diabolique, qui aujourd'hui ne peut pas porter le masque. Elle m'a expliqué ce que ça lui produisait. Je lui ai dit, mais vous et Jésus, enfin, voilà, c'est Jésus qui jugera, vous verrez bien. Enfin, en conscience, faites ce qui est possible pour vous. Quoi. Alors quelqu'un qui arrive derrière avec ses... Sa bonne volonté, ça je vous l'ai dit, hein, je sais que ça part d'un bon sentiment. Comment vous portez pas mal, Seigneur? Ben la dame, je peux pas quoi, j'arrive pas quoi. Ok, c'est compris le message. Et du coup, je pense que ça permet de garder des rapports sains, amicaux quoi. Je me dis, tout le monde, dans sa prière, je pense à considérer la situation, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je vous dis, c'est clair hein, qu'on sait très bien à quoi ils vont en arriver de la pandémie. Hein. C'est nous vacciner. Dans le vaccin, il y a la puce. Hein. On veut nous tracer numériquement. Ça, on le sait. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, comme ça vous le savez. Mais maintenant, moi, personnellement, alors comme je suis encore supérieure, hein, que je verrai à les moments quand ils nous proposeront le vaccin, si je le suis encore, mais en tant que personne individuelle, c'est sûr que moi, on me demande aujourd'hui si je suis d'accord avec le vaccin, je vous dis non. Voilà. Maintenant, si vous dites aujourd'hui en face de Dieu, moi j'ai peur de la maladie, j'ai peur de j'ai peur de mourir ou j'ai pas envie de tomber malade, je vois les conséquences de la maladie du Covid-19, et je veux me faire vacciner, mais moi j'ai des amis, j'ai des amis qui me disent, ben, moi j'ai hâte de me faire vacciner. Je veux dire, j'ai pas été leur dire, mais non, c'est non, je respecte. Quoi, voilà. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance, mais on est devenu très sectaire. On est dans un monde très totalitaire, sous prétexte de tolérance, de respect les uns pour les autres. Quoi. On sera jugé sur la lumière qu'on a reçue sur son âme. Hein. Vous n'êtes pas chargé de juger votre prochain, quoi. Surtout d'après vos lumières, quoi. Hein? Donc la personne qui met pas le masque ou qui la met, elle sera jugée en fonction de sa conscience. Et je pense, alors c'est là je m'en, enfin je dirais, je vous dis dans ma prière, hein, j'ai je me dis, il fallait que je le fasse, mais en me disant, bon là j'ai pris l'exemple du coronavirus, mais c'est un peu pour tout quoi. Hein. Comme en Grèce, une sœur me disait, ben, quand on change quelque chose, que ce soit à la chapelle ou dans la cour, eh bien on a tout de suite une remarque. Bien ou mal, quoi. Mais quand vous changez la peinture de votre salon, est-ce que je viens vous dire pourquoi vous avez changé la peinture de votre salon? Vous avez vos raisons. Ben nous aussi, on a les nôtres, quoi. Voilà. Donc, vraiment, la charité fraternelle, c'est ça. D'accord? Maintenant, la charité fraternelle, comme on l'entend l'évangile, c'est quand on voit son frère commettre un péché. Là, on en est quand même à quelques pavés ou à quelques rosiers que j'ai fait disparaître il y a un temps. Oui, c'est des petites. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a un risque et un grand risque de se faire contaminer par l'esprit du monde. Moi, c'est, je dirais, la grâce d'être cloîtrée, c'est ce recul que notre clôture nous donne par rapport à la situation du monde. Comme on n'est pas immergé dans le monde, on voit ce qui ne va pas. Quand vous êtes immergé, ça, c'est pour ça que le Seigneur sera encore plus indulgent vis-à-vis de vous que nous. Nous, on a plus reçu que vous. Faut être clair. Il nous demandera plus quand on passera au jugement. Et du coup, on voit bien les pièges, hein, les gros pièges dans lesquels le démon veut nous faire rentrer, quoi. L'esprit du monde, parce que c'est ça le démon. Donc, pour pas être contaminé par l'esprit du monde, eh bien, il faut prendre la mesure des choses, donc ce temps de prière au quotidien, moi je le répète et je le re-répète, hein, il faut prendre ce temps pour, qu'est-ce que je dois faire face à ce que j'ai, en tant que gardonneur, en tant que chrétien, face à cette situation de pandémie. Parce que c'est très subtil, mais on en vient à ce qu'on appelle l'orgueil caché, hein. On en vient à savoir tout sur tout, quoi. Moi je vous dis, hein, j'ai pas la solution à tout, quoi. Ma solution, moi, c'est Jésus-Christ, quoi. C'est la croix du Seigneur, quoi. Mais avec Jésus dessus, pas avec je ne sais trop quel charlatan dessus, quoi. D'accord? Voilà. Alors, j'en profite pour faire la publicité au passage. Je regarde où j'en suis, que je me tienne à l'œuvre. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Le père Joël Guibert vient de sortir un livre qui s'intitule « Le combat spirituel, tant attendu ». Clé de la paix intérieure. Alors, je ne peux que vous l'encourager à le lire, déjà parce que c'est vrai qu'il a sa grâce, il écrit et ça se lit comme du petit lait. C'est, voilà. En plus, tout ce qui est compliqué, il a l'art de le rendre accessible. Et puis bon, c'est un sujet aujourd'hui, et quand je parlais de guerre spirituelle, le combat, il s'agit bien de livrer une guerre, hein, à soi-même, hein, au tentateur, ça c'est clair, qui, à travers l'esprit du monde, veut vous faire peur. Voilà le grand ennemi, la peur. Hein, qu'est-ce que font nos politiques? Ça vient pas de moi, ça vient de notre professeur, de Grégorien, qui disait, mais après le confinement, et pendant tout le confinement, si on passait son temps à écouter Internet, les infos, matin, midi et soir, mais on devenait hystérique, quoi. Voilà. On avait peur. Nous, notre grâce, c'est qu'on n'est jamais, jamais, jamais allé à la télé. Déjà, en temps normal, on n'y va jamais. Mais alors là, jamais. Et les infos, je les tire sur un site catho et encore, je trie, quoi. Parce que les trucs, voilà. Oui. Oui. Le sous-titre, donc le combat spirituel, et le sous-titre, c'est clé de la paix intérieure. Clé, pour ouvrir, hein. L'édition, c'est Artege. Artege. A-R-T. L'édition, vous voulez? Oui. A-R-T-E-G-E. Accent grave. Non, on l'a pas au magasin. Ouais. Mais à Siloé, mais je sais qu'il est déjà, mais il est déjà en rupture, mais je crois qu'ils vont alimenter. C'est un bon fils, c'est simple. C'est le sujet, enfin, c'est, enfin, tout est conduit, hein. C'est là la divine providence, il aurait pu sortir un livre sur, je sais pas quoi, moi, sur Marie, par exemple, ça aurait été très beau aussi, hein. Mais voilà, le combat depuis les faits est quand même le sujet qui nous intéresse, quoi. Et aujourd'hui, c'est justement là le problème, on ne nous parle jamais et plus du combat spirituel. Et c'est aussi pour ça qu'on est en perte de vitesse. Si on ne livre pas un combat intérieur à soi-même et au tentateur, eh bien, on est envahi par l'angoisse, quoi. La quasi-totalité des gens que je reçois au parloir, le seul et unique sujet qui revient, c'est « j'ai peur, j'ai des angoisses, je tombe malade ». Et quand je creuse un peu, en général, c'est qu'on tourne, comme un disque rayé, une pensée, quelque chose qui nous fait peur, qui nous obnubile. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça fait des dérèglements impressionnants. Alors, c'est le bouquin, enfin son livre, et le père explique, comment dirais-je, avec des choses, avec des exercices très pratiques, comment réussir à combattre, hein, nous-mêmes et le tentateur. Hein. Et donc, pour ça, c'est très heureux. Et je voulais, entre autres, vous partager, parce que un passage pour nous aider à vivre. Parce que je vous dis, l'épreuve, elle n'est pas derrière nous. Nous, elle est devant nous. On entend, et ça va continuer, l'esprit du monde, enfin, je pense n'apprendre rien à personne, est rentré aussi au sein de l'Église. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Et je n'ai pas prévu de le faire, mais il cite un passage de l'abbé de Lubac. Quand le monde pénètre à l'intérieur de l'Église, il y est pire que le monde tout court. Il n'a de celui-ci ni la grandeur dans l'éclat illusoire, ni cette espèce de loyauté dans le mensonge, la méchanceté et l'envie reconnues d'avance comme sa loi. Quand le monde ecclésiastique est monde, il n'est du monde que la caricature. C'est le monde non seulement en plus médiocre, mais encore en plus laid. C'est l'abbé de Lubac qui n'est quand même pas très... On ne peut pas toucher trop quand même. Donc, il y a grand-chose, quoi. Donc, alors, bon, c'est clair, quoi. Et aujourd'hui, on comprend nos évêques, vu la pression médiatique. Hein. Il ne s'agit pas de... Il faut rentrer dans le tuyau, quoi. Il faut rentrer dans la pensée unique. Hein. Alors, voilà. Du coup, c'est sûr que il nous est demandé d'obéir. Et c'est ce que je réponds, moi, quand on me dit, comment dirais-je, ma mère, pourquoi vous n'avez pas votre masque, ou ma mère, pourquoi vous avez votre masque, ben, je dis, dans tous les cas, j'obéis à mon supérieur, c'est l'évêque, enfin j'en ai plusieurs, mais si je remonte, c'est l'évêque, après l'évêque, c'est le Saint-Père, parce que je suis de clôture papale, et puis, je suis aussi citoyenne, quoi, je vais voter. Alors, il y a des choses qui nous sont demandées, et là, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2242, le citoyen est obligé, en conscience, de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral et aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. N'oublions pas que Jésus a payé l'impôt à César. Mais, ceci dit, c'est quand même pas simple. Mais, nous, on nous enseigne. Quand ma sœur, on vous dit d'obéir à la supérieure. Oui, mais la supérieure, je vois qu'elle se trompe. Notre saint fondateur dit, obéir à la supérieure, qui se trompe, vous ne vous tromperez jamais. Par contre, la supérieure rendra compte de son obéissance. voilà comment moi j'ai ma petite, si je puis partager jusque-là, comment j'ai fait avec ça, et puis toutes les mesures sanitaires, et puis la communion dans la main, etc. Et vous le savez, ce n'est pas ma sensibilité, mais je continue de communier dans la main, je n'ai pas le choix. Et c'est ça qui est demandé, c'est ça que je fais. Je rendrai compte de l'obéissance, de mon obéissance quand j'arriverai devant Dieu. J'ai fait vœu d'obéissance. Je rendrai compte de mon obéissance. Par contre, Monsieur Macron, nos évêques de France qui ont demandé à tenir les mesures sanitaires, rendront compte de leur obéissance. Voilà. Et s'ils se trompent, s'ils ont plié le genou, moi, je ne me tromperai pas en obéissant. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais en conscience, parce que, étant zélatrice de la garde d'honneur, je suis là aussi pour vous aider à cheminer en tant que garde d'honneur et puis chrétien. Alors voilà ce que je voulais partager avec le livre du Père. Parce que, on voit bien que l'Esprit du monde est rentré dans l'Église. Et que c'est archi, archi douloureux, quoi, c'est clair. Hein. Après ce qui vient d'être dit, alors là, le Père, juste avant, mais ça va vous donner envie d'aller acheter le livre, eh bien, il fait un constat, justement, sur le fait que le monde est rentré dans l'Église, et puis que l'Église, est en bivalence. Pour certains de ces pasteurs. Mais rien de nouveau sous le soleil. Hein. Aujourd'hui, en cette époque, à l'office des lectures, on lit toutes les lettres de saint Augustin sur les pasteurs, où saint Augustin dénonce les pasteurs tièdes qui ne tiennent pas, qui ne soignent pas la brebis chétive, mais aussi la brebis grasse et forte, en les montrant une vie contraire à l'Évangile. C'est de toute époque, hein. Donc, en vous dénonçant les erreurs de l'Église, je suis dans mon rôle. Hein. Donc le lecteur l'aura compris, un authentique amour de l'Église, est indissociable de l'amour de la vérité. Car la vérité est vie, mais aussi parce que la vérité est l'autre, ça c'est très beau, est l'autre nom de l'époux de l'Église. Beau, hein? Jésus s'appelle, mais sans cesse je suis la vérité et la vie. Hein? Mais voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'autre nom de Jésus, c'est vérité. Quoi. La compromission avec l'erreur doctrinale est le contraire d'un amour filial envers l'Église et d'une vraie charité envers les petits, qui n'ont souvent que la vérité pour seule richesse. Autant nous ne devons pas supporter le mensonge doctrinal, autant nous devons porter les plaies de l'Église. Là, je m'arrête déjà, mais on fêtait aussi les 100 ans, aujourd'hui, cette année, les 100 ans de la canonisation de Sainte-Marguerite-Marie. On fêtait aussi le vœu de Montmartre au Sacré-Cœur, du jubilé. On fêtait aussi les 300 ans de la peste à Marseille. Et nous, on est plus qu'au courant, c'est une visitandine, Anne-Madeleine Réusa. Hein, la peste a sévi en 1720, et qu'est-ce qu'a fait, et beaucoup l'ont évoqué au moment de la pandémie, qu'est-ce qu'a fait Monseigneur de Belsens, à l'époque évêque de Marseille? Il est sorti les bannières, il passait par-dessus les cadavres qui l'empêchaient de sortir de son évêché, il est allé au-devant de la pandémie, et puis il a brandi la consécration du Sacré-Cœur. Et parce que le Seigneur avait demandé dans une révélation au cours de l'exposition du Saint-Sacrement de consacrer Marseille au Sacré-Cœur, premier diocèse de France à être consacré au Sacré-Cœur. Bon, toutes, et moi la première, j'aurais aimé voir la France. Hein. Voilà, on a tous plus ou moins ça dans le cœur. Bon. Voilà. Notre amour de l'Église doit aller jusque-là. Notre combat spirituel nous entraîne jusque-là. Le combat personnel de la mort à nous-mêmes contre le tentateur entraîne le combat de l'Église de mettre dehors en dehors de l'Église l'esprit du monde. À ses intimes, le Christ leur donne de participer à sa propres souffrances à la vue des scandales causés par certains fidèles. Mais ça, on peut l'ouvrir à tout ce qui se vit aujourd'hui. Hein. C'est pas uniquement les problèmes de pédophilie et tout le reste. Et surtout parmi les consacrés. Lors d'un discours à la Curie romaine, le lundi 20 décembre 2010, en pleine tourmente des affaires de pédophilie qui éclaboussaient l'Église, Benoît XVI éprouva le besoin de mentionner une vision de saint Hildegarde. Jésus donna à la sainte de Bingen d'entrevoir de manière symbolique les plaies de l'Église. Voilà. Je vis une femme d'une beauté telle que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre. Mais son visage était couvert de poussière. Son vêtement était déchiré du côté droit. Saint Hildegarde précise, « Les stigmates de mon époux demeurent frais et ouverts, tant que sont ouvertes les plaies des péchés des hommes. Justement, le fait que les blessures du Christ restent ouvertes est la faute des prêtres. » Ça, c'est lié au problème de pédophilie. C'est alors qu'elle entendit une voix céleste lui dire, cette image représente l'Église. C'est pourquoi, ou être humain qui voit tout cela et qui écoute les paroles de plainte, annonce-le aux prêtres qui sont destinés à la conduite et à l'instruction du peuple de Dieu. Et le bon pape, Benoît, de conclure, dans la vision de saint Hildegarde, le visage de l'Église est couvert de poussière. Et c'est ainsi que nous l'avons vu cette année. Son vêtement est déchiré par la faute des prêtres. Moi, je me mets dedans, hein. Par notre faute, nos fautes, nous devons accueillir cette humiliation comme une exhortation à la vérité et un appel au renouvellement Seule la vérité sauve. N'en restons pas là vis-à-vis de la souffrance causée par des blessures de l'Église. Tout cela serait stérile. C'est le père qui reprend la plume. Souffrir des plaies de l'Église, oui, mais pour mieux les offrir à Dieu dans l'amour. Je rappelle Jésus à Gethsémani, quand il vient, on vient le prendre, il y en a un qui se défend avec son épée, et qu'est-ce que fait Jésus? Il se livre. Pleurer sur les déchirures de l'Église, oui, ça fait mal, et c'est normal de pleurer sur ce qu'on voit, c'est normal. Ça ne vous ferait rien, je dirais, mais vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Mais pleurez joyeusement dans la ferme espérance, sans jamais sombrer dans l'amertume ou l'accusation. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça, aujourd'hui, je serai à la place de certains évêques ou certains cardinaux, je ne sais pas si je ne serai pas pareil, je n'en sais rien. Alors quand on est sorti de la pression et qu'on est tranquille derrière ces grilles, oui, je me dis, il devrait faire ça, hein, c'est clair, hein. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Si là, la lâcheté ne nous gagnerait pas. Par notre offrande des blessures de l'Église dans la foi et l'amour, le Christ est capable de réparer le péché, glorifier son Père et renouveler son Église. Cette douleur imprégnée d'espérance habitait le cœur du saint curé d'Ars lorsqu'il se dépensait et pleurait pour les pécheurs. Un de ses biographes écrit « Les pauvres pécheurs, c'est quand l'un d'eux s'obstinait à ne pas se rendre que le saint redoublait ses prières et ses pénitences. Je ne suis bien, disait-il délicieusement, que lorsque je prie pour les pécheurs. » Oh, si seulement on pouvait avoir ça comme sentiment aujourd'hui. Il faut l'avoir d'autant plus, quoi. Voilà, porter notre masque, hein, pour porter les plaies de la Sainte Église. Parce qu'on sait bien que ça, il y a des choses qui ne vont pas. Cette compromission avec les lois de la République, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, la bataille, elle se joue là, dans l'offrande de nos vies, dans la manière dont je vais soigner ma communion eucharistique, dans la manière dont je vais vivre mon heure de présence. Comment je vais répondre à un visage dur? Est-ce que je rétorque la même chose? Ou est-ce que je fais un sourire? Ou est-ce que je murmure intérieurement toute une journée un jugement sur ma voisine parce qu'elle m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu? Ou mon enfant aussi, hein. Vous comprenez? C'est là que ça se joue. Je m'en doute un petit peu, je n'avais pas été capable de reprendre la lettre de notre mère. Mais j'ai quand même... notre Dame, la Mère Marie de Jésus de Lille-Martigny, en dénonçant la franc-maçonnerie dans ses procédés hein, de ruiner le monde, et là elle s'adresse à la France. Mais voilà ce qu'elle dit. Nous sommes de la race de Marie, dont Dieu lui-même a annoncé l'inimitié perpétuelle contre la race de Satan, et à laquelle il a donné le triomphe par Jésus-Christ. Mais sans nous dispenser du labeur, ni nous priver de l'honneur et du mérite de la lutte. Faut pas se faire d'illusions. C'est normal de suer un peu. Des fois on entend, mais j'ai pas envie de dire mon chapelet. Ou ça ne dit rien de prier, quoi. Après, qu'on peine à prier, c'est lutter, quoi. C'est lutter. Espérons donc confiance et intrépide action. Mais que ferons-nous, faible femme, qui s'adresse à ses sœurs? Alors, je pourrais dire, que ferions-nous, hein, faible garde d'honneur? Ce que nous ferons, nous venons de le dire, nous prierons, nous réparerons, nous aimerons, nous souffrirons. D'autres seront des apôtres, actifs combattants jetés dans la mêlée. Nous serons avec la très douce Vierge Marie des holocaustes cachés en Jésus-Christ, immolés avec Jésus-Christ, et achetons avec lui, par lui, en lui, le salut du monde. Voilà. Alors, on est renvoyé à nous-mêmes. Hein. Est-ce que je crois que ma vie, mon offrande, ma prière, les sacrifices que j'égrène le long de ma journée sont capables de renverser cette... de faire reculer Satan? Est-ce que je crois? Et elle est là, la vraie question de la pandémie. C'est pas... Enfin, comme dit, tout est conduit. Hein, la divine providence conduit cet événement. Il l'a permis. Ça rentre dans son plan d'amour. J'ose les mots. Je choisis mes mots. Et du coup, ben voilà. Aujourd'hui, la vraie question par rapport à la pandémie, hein, et puis ce qui va arriver là, demain, hein, qui se vit déjà aujourd'hui, eh bien, est-ce que je crois à la puissance de la prière? Est-ce que je crois à mes sacrifices unis à Jésus sur la croix? Est-ce que j'y crois? Voilà, c'est tout. Si j'y crois, ben vous serez plein d'espérance, comme je suis. Et il n'y a aucune peur qui habite mon cœur, aucune. Alors que je suis responsable d'une communauté, et je me dis, c'est clair, on ne va pas toujours avoir les moyens de payer les factures, ça c'est certain. On sait bien, de toute façon c'est comme ça hein, qu'on est poussé hors de nos murs. mais ceci dit, c'est pas mon problème. Ne nous mettons pas sur le dos des problèmes qui ne sont pas les nôtres. C'est à Jésus de régler ça. Mais on est renvoyé toujours au mystère de la divine providence. Quelle place on met dans notre vie à Jésus? Et je vous dis, et moi il me le dit tous les jours, il est à l'étroit chez moi. Il veut pousser les parois de mon cœur. Il veut le dilater. Il est trop à l'étroit. On a trop... on n'est pas assez humble pour lui demander de l'aide ou pour lui confier tel et tel souci. On croit tellement que ça va passer par nous, quoi. Non. Moi, je vois tous mes problèmes, de plus en plus en tout cas, se résoudre parce que je m'en occupe pas. Je m'occupe de Jésus. Je lui en parle. Ça c'est clair. Puis comme je sais qu'il n'est pas sourd, ce qu'il me l'a dit, c'est pas besoin de me dire 3-10 fois dans la journée. J'ai compris, je les ai entendus, d'accord. Bon. Je dis ça en rigolant, hein. Enfin je dis. Je dis une fois la Sainte Messe, voilà, c'était le souci. Puis après, je m'en occupe plus. Ah! Par contre, ça demande de vivre ça. Hein. Et c'est ça qui porte son fruit. Mais en général, on n'est pas capable de vivre ça. Donc, on met les deux mains pour s'occuper du problème, on paralyse l'Esprit Saint, et puis on voit qu'on s'enfonce dans le problème. Puis après, là, on commence à prendre l'esprit du monde, à rentrer dans cette peur. Mais où est Dieu? Ben, il a toujours été là, Dieu. Ben, par contre, et je dis, hein, je m'adresse à moi, hein. On ne croit plus en l'existence de Dieu, mais souvent on lui dit, c'est la société qui ne croit plus, ça c'est vrai, on ne va pas dire l'inverse. Mais est-ce que nous, on croit réellement que Dieu peut agir de manière fulgurante? Est-ce qu'on y croit? Ben, je vous pose la question. Parce que moi, tous les jours, je me le dis, ça c'est des trucs de fou, je me dis, mais Dieu l'a fait, donc il nous a tous créés, il sait comment il nous a fait. Donc les petits problèmes d'ici ou là qu'on peut avoir en soi ou sur soi, bah, il est capable de nous les résoudre, mais faut-il encore le laisser faire? Et je vous dis, c'est là le vrai problème de la pandémie, du progrès, et vraiment de la grande descente qui se prépare. Hein. D'accord? Voilà, j'espère qu'il n'y aurait pas... En tout cas, grand union de prière, hein. J'espère n'avoir blessé personne, en tout cas si je vous dis sincèrement, ce n'était pas mon intention. Mais vous êtes déjà au courant parce que vous avez dû recevoir le mail, mais le site est à nouveau en ligne, donc vous pourrez réentendre les formations. Alors il est toujours en cours de réalisation parce que c'est pas l'unique préoccupation des sœurs, et heureusement c'est d'abord la prière. Donc on y travaille, mais comme il faut qu'il soit pour quand on l'a mis, il était plus accessible, c'est parce que comme il était plus visible par les iPhones et puis les tablettes et tout, voilà. Donc du coup, il fallait faire des modifications. Alors ça, c'est fin, il faut avoir des cordes à son arc, donc on a enfin réussi. Mais voilà, ça va se faire progressivement, mais tout ce qui garde, regarde la garde d'honneur, vous avez ce qu'il faut, quoi. Donc je vous donne les dates du week-end de la garde d'honneur en 2021, le 10 et 11 avril par l'abbé Lucchesi. Et puis je reconfie à la prière les malades, les personnes qui ont réellement souffert. Moi j'ai vraiment rencontré de grandes détresses pendant le confinement chez nos gardes d'honneur. Donc je les reconfie. Et je voulais aussi confier, j'ai reçu cette semaine, un petit coup de téléphone d'une personne de la garde d'honneur du centre de Notre-Dame du Chêne, et donc Solène, et qui demandait un peu d'aide pour revitaliser son centre, et puis elle demandait aussi pour écouter les formations, donc j'ai dit avec grande joie si ça peut permettre, si ça peut en aider d'autres. Et dans la conversation, eh bien, il y aurait le projet, donc on va prendre ça dans la prière, soit de venir nous rencontrer au cours d'une formation pour que vous les connaissiez, pour qu'on s'entreporte dans la prière, ou ils viendraient se greffer sur le week-end, donc voilà, de bénéficier du prédicateur aussi. Et donc elle a demandé qu'on prie pour eux, parce que selon nous, on a la grâce hein, d'être en ville, d'être une grande ville. Eh bien, mais quand on se place en campagne, c'est des fois beaucoup plus difficile. C'est clair qu'on a affaire à une déchristianisation galopante, donc c'est loin d'être simple. Donc elle se confiait bien la prière, et elle était heureuse de savoir que la garde d'honneur de Nantes allait être maintenant en communion à travers la prière et les formations tous les mois, de vivre ce va-et-vient dans l'Esprit Saint. Hein, parce que l'union fait la force. Hein. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Voilà. Donc aujourd'hui, alors moi qui ai des questions, mais aujourd'hui c'est, comment dirais-je, Notre-Dame de la Salette. Donc je suis allée chercher une petite prière au sujet de Notre-Dame de la Salette et je veux la dire en votre nom. Est-ce qu'il y a des questions? On prend aussi demain, nous on y sera en tout cas par la prière, l'installation de Mgr Percerot comme évêque de Nantes, prions beaucoup pour lui. Et puis on se revoit normalement le 10 octobre pour la prochaine formation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour nous sur le calvaire et dans votre miséricordieuse apparition. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour nous, afin de nous soustraire au coup de la justice de Dieu. Et voyez si après avoir fait tant pour vos enfants, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimés par cette consolante pensée, nous venons nous jeter à vos pieds, malgré nos infidélités et nos ingratitudes. Ne repoussez pas notre prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-nous, faites-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte pour que nous puissions un jour vous voir au ciel. Amen. Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Sacré-Cœur, nos saints anges gardiens, Sainte Sacré-Cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bon retour à la en grande union de prière. C'est ce qui nous fait notre force.
Voilà, comme ça, quand vous me verrez dans la rue avec mon ou dans la cour, et vous serez pour qui? En tout cas, ça m'aide, moi.